travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Le pays délivré d'un si rude ennemi. Mon sceptre dans ma main par la tienne affermie, et les morts, défaits, avant qu'en ces alarmes, j'eusse pu donner ordre à repousser leurs armes, ne sont point des exploits qui laissent à ton roi le moyen ni l'espoir.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, voici qu'à nouveau, ces jours-ci, le tourbillon des passions vient exaspérer l'opposition entre deux extrêmes qui, visiblement, sont rigoureusement rebelles au prestige de la raison. D'un côté, une petite frange de l'islam, et de l'autre, les quelques-uns qui, dans notre Occident, dont la culture est pour beaucoup chrétienne, redoutent, détestent, fustigent leurs compatriotes musulmans. Au service de la sagesse, de la sérénité, de la tolérance, l'histoire, comme toujours, peut apporter sa contribution. Et c'est la portée que je voudrais donner à notre émission de ce matin, consacrée à la situation des musulmans en Europe autrefois, entendez, du XVIe au XVIIIe siècle. J'aurais songé en toute occurrence à convier Luciette Valency, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, puisqu'elle vient de publier sur ce thème un livre précieux qu'il aurait consacré sous le titre « Ces étrangers familiers ». Mais l'intention explicite qui est la sienne m'y a poussé encore davantage, puisqu'elle commence son ouvrage avec le propos suivant qui le colore tout entier, je la cite. « J'aurais voulu écrire ces lignes en forme d'avertissement. Les personnages signalés dans ce livre sont tous morts depuis longtemps et toute ressemblance avec nos contemporains est purement fortuite. Mais, continue-t-elle, je ne le ferai pas, car les pages qui suivent répondent à des questions que pose notre présent, à des préoccupations politiques, mais aussi morales, que suscitent les prises de position et les actions de ceux qui nous gouvernent, comme les convictions exprimées par certains courants de l'opinion publique à l'égard de nos concitoyens musulmans, des immigrés issus des pays d'islam et de leurs descendants. Je prends donc, ajoute-t-elle enfin, le parti de l'anachronisme. Anachronisme, sur ce mot seulement, je ne rejoindrai pas tout à fait Luciette Valency, car dans son souci d'éclairer le présent par le passé, souci qui est constamment le nôtre dans cette émission, je discernerai plutôt l'attention portée sur ce qui, dans le passé, peut apparaître précisément comme contemporain. Et pour commencer, un extrait du documentaire « Musulman de France » qui remonte à 2009.
Depuis quelques années déjà, l'État montrait son intérêt pour la santé des Nord-Africains. En 1935, un hôpital franco-musulman était inauguré à Bobigny en présence du recteur de la mosquée de Paris, Sirkadul Ben Gabrit, et du ministre de l'Intérieur, Marcel Régnier.
Nous demandons aux populations musulmanes de voir dans l'ouverture de ce magnifique établissement une manifestation nouvelle de la sollicitude de notre pays et de son gouvernement pour leur avenir, pour leur bien-être, pour l'amélioration constante de leur situation sous la protection de la mère patrie.
Le discours est traduit en arabe.
Un hôpital ultramoderne destiné aux malades musulmans. En ouvrant cet établissement, les autorités s'attaquent enfin aux sérieux problèmes sanitaires des travailleurs nord-africains. Elles en profitent pour mettre en scène l'amour de la mère patrie envers ses enfants venus des colonies.
Le corps médical compte dans son service des médecins coloniaux, de valeur éprouvée, ainsi que des médecins des hôpitaux, professeurs et chargés de cours à la faculté de médecine de Paris. Ils sont assistés d'internes et d'infirmières. Ces dernières, instruites à l'école des Petites Bleues de la Salpêtrière, ont suivi des cours d'arabe et de berbère et seront à même de converser dans leur langue propre avec leurs malades. Voici la cuisine, installée de façon toute moderne, où un chef confectionnera le couscous et le méchoui.
Dans les faits, les Nord-Africains de Paris accueillent avec méfiance l'ouverture de l'hôpital franco-musulman. Au point qu'un quart de police fait la tournée des hôpitaux parisiens pour y embarquer les malades arabes récalcitrants et les amener de force à Bobigny.
Dès 1934, c'est-à-dire que l'hôpital n'avait pas encore ouvert ses portes, il y a tout de même des conseillers municipaux qui se sont élevés contre le fait que c'était un chef du service de police qui allait prendre la direction de l'hôpital et non pas un médecin.
Ce directeur, Adolphe Gérolami, était le patron de la brigade nord-africaine de la rue Lecomte. Contrôle généralisé, interrogatoire systématique des patients, il importe ses méthodes à Bobigny. Ce mélange des genres entre médical et policier entraîne une condamnation virulente de la part de l'étoile nord-africaine. Pour Messali Hadj, c'est la preuve que les Arabes sont traités comme des pestiférés appartenant à une race inférieure.
Michel Valency, bonjour.
Bonjour.
C'était donc un extrait d'un très beau documentaire en trois volets qui s'appelle « Musulmans de France » de 1904 à nos jours, un film de Karim Misquet, Emmanuel Blanchard et Mohamed Joseph, un film produit par la compagnie Phare et Balise que dirige Jean Labib. Il me semble que cet extrait qui remonte à 77 ans, pose néanmoins des problèmes qui peuvent être actuels dans la conjoncture que nous connaissons.
Qui reste actuel, mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans demandent qu'on leur réserve des espaces spéciaux dans les hôpitaux, de manière très justifiée. Par exemple, pour les rites funéraires spéciaux, il y a maintenant un espace aménagé dans la plupart des hôpitaux français. Et l'époque, ça paraissait une ségrégation, et c'était une ségrégation.
Alors comment expliquer cette évolution dans cette Europe?
Cette évolution, c'est que l'islam, il n'y a pas que des musulmans en France, il y a un islam en France, c'est-à-dire des pratiques collectives qui exigent des espaces collectifs. Le cimetière, la mosquée d'abord, bien sûr, quand on est vivant, les salles funéraires dans les hôpitaux, les abattoirs et enfin le cimetière.
Est-ce que l'évolution statistique de la présence des musulmans en Europe, 17 millions, et en France, un tiers de ceux-ci, oui, ne contribue pas aussi à cette évolution? Il y en avait beaucoup moins dans l'entre-deux-guerres.
Il y en avait beaucoup moins et c'était surtout des hommes, des immigrés justement. Tandis que maintenant, ce sont nos concitoyens et ce sont des familles avec femmes et enfants.
Changement essentiel.
Essentiel et qui remonte aux années 70.
Alors nous allons, c'est notre vocation ici, Lucienne Valency, nous allons regarder plus loin en arrière. Nous allons remonter au 16e, 17e, 18e siècle. Et je voudrais que nous commencions en parlant de la dénomination des musulmans. C'est toujours très, très éclairant, l'usage très général de l'expression turque en particulier.
Voilà. Le musulman, c'est le turc qui peut être nord-africain, donc de langue arabe. Rien à voir avec la Turquie, avec l'Empire ottoman, qui peut être un sujet de l'Empire turc, arménien ou juif, qu'on dira turc de nation, ce qui veut dire qu'il est politiquement rattaché à l'Empire turc, mais qu'il n'est pas musulman.
Il peut être chrétien.
Il peut être chrétien, donc arménien ou grec ou juif. Et turc, c'est aussi devenir, lorsqu'on devient musulman, les renégats se font turcs, portent le turban ou se font turcs. Ça veut dire se convertir à l'islam.
Bon, ça, vous nous prévenez tout de suite d'emblée que tout cela est un peu compliqué. Il y a aussi ce mot de mort que nous avons appris, notamment par le site de Corneille et d'autres façons.
Il y a des variations régionales, puisque je couvre l'ensemble de l'Europe. Les mots n'ont pas le même sens en Angleterre, n'ont pas le même sens en Espagne.
Alors bon, vous compliquez encore davantage.
Ça complique, oui. Oui.
Les mours voilà. En anglais désignent tantôt le mort, qui est musulman, tantôt le noir aussi, voilà, qu'on appelle le
black amour.
Black amour, oui. L'expression de mort correspond à des musulmans citadins et arabophones, et on parle aussi des Arabes qui peuplent les campagnes.
Voilà, mais l'expression de turc à mort, par exemple, qui était très courante dans l'Ancien Régime, en français, voulait dire une relation de domination, d'écrasement. Donc le turc, c'est le maître, et le mort, c'est le sujet. Et ce qui est vrai dans l'Empire ottoman.
Ah, qu'est-ce que c'est que les morisques?
Ah, les morisques. Les morisques, c'est une sorte d'invention. Les morisques, ce sont les descendants de musulmans d'Espagne qui ont été tolérés dans l'Espagne après la Reconquête, puis forcés à se convertir. Ce sont donc des chrétiens d'origine musulmane. Ce sont des chrétiens qui ont été convertis de force dans deux vagues très violentes de conversion forcée au début du XVIe siècle, puis en 1525. Et Charles Quint a légitimé ces conversions forcées et a donc accéléré et généralisé le mouvement de conversion forcée de l'ensemble des descendants de musulmans.
En somme, comme si souvent, quand on jette un trait de lumière sur la dénomination complexe d'un sujet, on évoque à peu près la table des matières de ce qu'il revient d'évoquer.
En disant que ces gens-là sont des morisques, j'allais dire avec majuscule, on les constitue en groupe étranger, alors que ce sont des Espagnols, que leur patrie, si vous voulez, c'est l'Espagne. Leur religion, c'est l'islam, et leur patrie, c'est l'Espagne. Leur langue, c'est le castillan, pour beaucoup, et les autres langues qui sont pratiquées en Espagne. Les chrétiens d'alors, je veux dire la population, pas seulement l'Église et les autorités politiques, le roi, les chrétiens d'alors tolèrent parfaitement que les Basques parlent une autre langue, que d'autres régions parlent des dialectes différents, bien sûr le catalan. Donc diversité linguistique, bien, mais diversité religieuse, non. Et on fait des morisques un groupe étranger en se familiarisant petit à petit à l'idée qu'il faut les chasser.
Bien, nous allons voir tout ça de plus près, évidemment, oui, avec tout ce que cela emporte de drames individuels et collectifs. Mais pour commencer, je crois qu'il est utile, Lucette Valency, que l'on rappelle que au sortir de la Renaissance, malgré le djihad, malgré ce qui reste de l'esprit de croisade, les musulmans sont présents, et parfois fort présents, en Europe méditerranéenne et centrale. Une présence inégale, mais permanente.
Tout à fait. Ce fut une surprise pour moi. Je me posais la question, est-ce qu'il y avait des musulmans en Europe? Et je pensais en trouver assez peu. Je m'attendais à trouver des captifs, des galériens. Et finalement, j'en ai trouvé beaucoup et de conditions très diverses.
Alors je voudrais que nous commencions en nous demandant ce qu'il demeure dans les esprits du discours médiéval de la croisade qui continue d'alimenter la peur du musulman en ce XVIe siècle.
Le discours de l'affrontement inévitable entre islam et chrétienté continue jusqu'au XVIIe siècle.
Des deux côtés.
Des deux côtés, tout à fait.
Croisade contre djihad.
Voilà. Je dirais même que du côté musulman, ça continue jusqu'au 19e. Et avec l'intégration du monde musulman dans l'économie capitaliste, puis le colonialisme, ce discours du djihad a été ravivé, bien sûr. Mais pour rester dans les siècles que nous présentons ici, le discours de la croisade nous paraît anachronique et pourtant, il a la vie dure. Bien sûr, le pape continue d'appeler à l'unité des monarques chrétiens contre l'islam, mais même les églises réformées parlent du turc comme fléau de Dieu et appellent à une action contre eux, liée à cette idée de croisade, l'idée de monarchie universelle. C'est-à-dire ce mythe qui s'appuie sur le livre de Daniel dans la Bible, ce mythe qui consiste à penser qu'une monarchie chrétienne, catholique, établirait un royaume universel sur l'ensemble de la planète, ça couvrirait le Nouveau Monde, bien entendu, mais aussi d'autres régions dites païennes, et surtout le monde turc. Et on s'emparerait de nouveau des lieux saints, on établirait le christianisme là où le turc l'emporte. Et c'est un mythe extrêmement tenace, même en France où on ne s'oppose pas à l'Empire ottoman et on évite le conflit avec le grand turc, parce que le conflit direct c'est avec l'Espagne ou avec l'empereur, même en France, on pense que les Valois ou les Bourbons vont un jour avoir le sceptre de la monarchie universelle.
En même temps que François Ier fait un accord avec le grand turc.
Voilà, et reçoit la flotte ennemie, la flotte turque à Toulon pendant plus d'un an.
Donc c'est contradictoire.
C'est contradictoire, et en même temps il y a ce rêve d'une réparation pour le christianisme.
Il est tout de même intéressant d'observer qu'il y a eu beaucoup, beaucoup plus de morts MORTS, dues au conflit interne à la chrétienté pendant ces siècles, beaucoup moins de sang versé entre les musulmans et les Européens que dans les conflits intestins.
Au nom de la religion, les guerres religieuses ont coûté beaucoup plus d'hommes, de femmes, de victimes, de ressources aussi aux pays chrétiens que les guerres avec les Ottomans.
Il faut maintenant en venir, Lucette Valency, il faut en venir à la question de départ. Comment est-ce qu'on pouvait, à partir de ce XVIe siècle et au XVIIe, se retrouver musulmans en terre chrétienne?
La situation la plus massive, c'est celle des musulmans et descendants de musulmans qui se trouvent encore en Espagne ou au Portugal. Le Portugal a chassé les musulmans et les descendants de musulmans le premier, dès la fin du XVe siècle, mais en Espagne, il faut attendre le début du XVIIe, 1609-1614, l'expulsion massive. Le deuxième groupe, très nombreux, mais plus dispersé, bien sûr, c'est le groupe des galériens. Ah, il y a des milliers d'esclaves. Des milliers d'esclaves en France, à Marseille, même si la France n'est pas censée tolérer d'esclavage sur son sol, mais aussi sur les ports atlantiques. Mais il y a aussi des galériens à Rome, ou du moins à Civitavecchia, des galériens dans les ports toscans, des galériens à Venise, des galériens en Espagne donc, et à Malte. Donc des milliers de galériens turcs, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire musulmans de tous les bords.
Des qui esclaves.
Des esclaves. Et il y a aussi les captifs. La différence est quelquefois difficile à établir entre captifs et esclaves. Vous avez les captifs des confins entre l'Empire ottoman et l'Empire Habsbourg. Des régions entières, la Hongrie comprise, passent tantôt sous la domination ottomane, tantôt sous domination chrétienne. Et vous avez des gens qui sont capturés des deux côtés, qui changent de religion, mais aussi des captifs qui sont transportés dans toute l'Europe et qui finissent non seulement à Vienne, mais même dans les pays scandinaves. Et ils ont un statut d'esclave, si vous voulez. Ils pourraient être rachetés, mais on les retrouve pendant des années captifs d'aristocrates autrichiens, danois.
Jusqu'en Suède. Avec cette vie épouvantable qui est celle des galériens, qu'on connaît d'ailleurs souvent par les récits des protestants
En particulier par un récit qu'a publié Sisberg d'un huguenot, Martet, qui a passé plusieurs années galérien et qui a eu comme amis deux Turcs qui ont été vraiment ses proches amis. Assez touchant.
Ça n'exclut pas quelques condescendances de la part du français protestant à l'égard des musulmans.
À l'égard des musulmans d'Afrique du Nord. Et il dit que les Turcs les méprisent. Alors c'est intéressant de voir que même dans une société de galériens, il y a des hiérarchies. Il y a les bons et les mauvais. Les mauvais, ce sont les Nord-Africains. Les bons, ce sont les Turcs qui ont un sens de l'honneur, une loyauté, etc., censés être supérieurs à celle des Maghrébins.
Déjà beaucoup de clichés.
Des clichés, bien sûr.
Une autre catégorie de musulmans sont présents en Europe, les marchands, puisque dès le Moyen-Âge et plus largement à l'époque moderne, les traités commerciaux se sont multipliés entre les puissances chrétiennes et les pays musulmans.
De fait, il y a des marchands, mais ils forment rarement des colonies. Et ils sont de passage. Les cas de colonies sont assez rares, c'est Venise. Même là, ils ne passent pas forcément toute l'année sur place. Ils sont assez mal accueillis à Marseille. Ils ne sont pas du tout accueillis à Barcelone ou à Séville. Donc, s'il en vient, c'est avec des autorisations spéciales, si vous voulez. Ils sont plutôt de passage.
Ils sont rejetés parce qu'on les assimile à des pays qui font la chasse, des barbaresques, ou parce qu'on craint leur concurrence,
parce qu'il
y a des préjugés raciaux.
Pas encore raciaux, mais on craint leur concurrence. On peut avoir le monopole du commerce. Et on ne tolère pas les musulmans, qui ont une religion impie, selon les chrétiens. On refuse de les enterrer. Et en même temps, on est obligé de leur trouver un cimetière parce que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a des cimetières pour les chrétiens. Et on a peur de perdre ce privilège. Donc il y a constamment des tensions sur la possibilité d'avoir un lieu de prière, la possibilité d'avoir un cimetière. Les Marseillais, en particulier, sont extrêmement réticents. On trouve en revanche un très grand nombre d'envoyés, d'ambassadeurs, comme on dirait aujourd'hui, des envoyés de Perse qui mettent des mois à arriver et à traverser l'Europe, des envoyés de l'Empire ottoman, des envoyés du Maroc et des régences de Tripoli, Tunis et Alger. Il ne se passe pas d'année où il n'y ait pas un envoyé quelque part dans un pays chrétien, à Venise ou à Paris, bien sûr, mais aussi en Angleterre, dans les Pays-Bas et jusqu'en Suède ou en Moscovie, comme on appelle la Russie à l'époque.
La maison de commerce, la fameuse maison Fugger, raconte, on pourrait retrouver d'autres exemples, comment l'ambassade persane qui est arrivée à Prague en 1600 a attiré de partout la curiosité populaire. 400 hommes armés étaient déployés devant la résidence de l'ambassadeur qui a été accueilli et reçu de fort belle manière. L'ambassade en voyage depuis près d'un an et demi a vu mourir 16 de ses membres en chemin. Elle a été émerveillée par le grand concours de peuple venu des trois villes de Prague. Et si on va jusqu'au 19e siècle, on trouve, parce que ce sont toujours des sources intéressantes, pas seulement chez Montesquieu, les persans, ça c'est la littérature, mais dans la pratique, il est toujours intéressant de voir comment chacun des ambassadeurs, dans les deux sens, chaque catégorie d'ambassadeurs, regarde le pays, souvent surprenant, où il est envoyé. Voici un exemple tout à fait topique, c'est un extrait du « Paradis des femmes et l'enfer des chevaux » d'Idriss Al-Amraoui, autour de 1860. Il vient en Europe et réagit de la façon suivante.
Ah, ces chrétiens. Quel dommage que ces paysages splendides soient gâtés par ceux qui les peuplent et pour cela revêtent le deuil. À juste titre, en effet. Si l'on pense que ses habitants se partagent entre prêtres et fidèles de la croix, sans parler de ceux qui obéissent au diable. Ils ne savent pas jouir convenablement de ses beautés, ni venir s'asseoir au bord de ce fleuve pour passer des moments agréables, ni parcourir à cheval ses prairies. Ils passent plutôt comme des démons, des possédés, montés sur des chars de fer et de feu qui déchirent le paysage. Et lorsque lassés, ils recherchent quelque repos et veulent profiter des agréments de la région, c'est pour entrer dans des pièces d'auberges inconfortables et boire des verres remplis d'une liqueur amère. Puis ils sortent de ces auberges en roulant comme des singes, en braillant comme des ânes. Leurs visages sont déformés par la manière dont ils sont rasés et leurs propos ne sont que sifflements, grognements et éclats de rire.
C'était un extrait de L'échappée belle, une émission de Marie-Hélène Fraissé, qui remonte à 1995, février 1995. Lucette Valency, il y a encore une autre catégorie de musulmans présents en Europe occidentale. Ce sont, des battleurs, des petits artisans, des bouffons, des dilettantes, une présence qui est acceptée, qui est relativement banale et ordinaire.
Il semble qu'elle soit banale. On a des descriptions pour Venise, pour Paris et pour l'Angleterre de battleurs, de forts en bras qui se battent en public, de gens qui montent sur des cordes. Et il y a aussi, alors là, une catégorie importante et inattendue, des réfugiés politiques. Des gens qui viennent du Moyen-Orient ou du Maroc surtout, mais aussi du royaume de Tlemcen. De gens qui, pour des raisons politiques, en raison de conflits à l'intérieur du Maghreb ou du Moyen-Orient, s'échappent en chrétienté et cherche le soutien de souverains chrétiens. Et puis, parmi ceux-là, la grosse surprise, c'est la fréquence des conversions au christianisme, alors qu'ils n'y sont pas forcés. C'est une stratégie d'intégration, en particulier pour les officiers ou les membres de l'élite du Maroc ou du royaume de Tlemcen ou d'autres régions. C'est un moyen d'entrer à la cour du souverain d'Espagne et d'être pensionné, et d'entrer dans l'armée.
Alors, l'armée et la médecine, c'est les deux filières majeures, non ?
Et même l'Église. Et il y a des gens qui finissent jésuites ou franciscains et missionnaires. On a le cas de Baltasar Loyola Mendes au XVIIe siècle, un Marocain pris en cours, c'est-à-dire par des corsaires, captif à Malte, qui est racheté par le souverain de Tunis et qui a un rêve miraculeux qui le convainc qu'il faut se convertir. Il se convertit, devient jésuite, et l'Église est prête à l'envoyer comme missionnaire en Inde. Et finalement, il meurt de la peste avant de partir. Mais il est jésuite. Il est donc tout à fait convaincu. Il a une véritable foi chrétienne. Et les jésuites en sont tellement éblouis. Les églises se remplissent partout où il arrive à prêcher. Je ne sais pas dans quelle langue, d'ailleurs. Mais il est célébré partout.
Et il est bien accepté dans l'Église, il n'y a pas des phénomènes de rejet du tout, au contraire, plutôt un étonnement admiratif.
Ah, attendez, c'est même plus que cela. C'est la preuve que l'Église va triompher. Car on l'appelle moins le frère Balthazar que roi de Fès et du Maroc. On continue de penser qu'il va reconquérir le Maroc en tant que fils de prince. Donc le Maroc va être gagné à la foi chrétienne. Et de même pour les autres convertis, on les appelle rois d'Afrique, dont Philippe d'Afrique, pour bien indiquer que la croix est en train de gagner du terrain sur le croissant.
Mais on peut observer, sans que ce soit exactement notre sujet d'aujourd'hui, puisque nous parlons des musulmans en Europe et non pas des Européens en islam, mais il y a les symétriques exactes, c'est-à-dire beaucoup d'Européens, de chrétiens d'origine, qui se convertissent à l'islam.
Ils se convertissent à l'islam et ils connaissent une certaine ascension sociale parce que les sociétés musulmanes ne sont pas hiérarchisées, ne sont pas des sociétés aristocratiques. Et donc on peut entrer dans l'élite si on a une certaine compétence technique.
Il y a aussi un aspect curieux de tout cela, c'est le cas des musulmans qui se travestissent. On dissimule parfois la réalité de son origine.
Oui, vous avez certains mourisques qui, chassés d'Espagne, passent par les Pyrénées. C'est une des voies de sortie qui est autorisée, ou recommandée même pour ceux qui sont dans le nord de la péninsule. Alors, ils passent par les Pyrénées, ils arrivent en France, et ils se dissimulent comme musulmans. et certains rejoignent les Pays-Bas. En général, ils ont de bonnes relations avec les protestants, parce qu'ils trouvent qu'ils sont plus monothéistes que les catholiques.
Ah oui.
Et certains se convertissent justement à la religion réformée.
Il n'y a pas la Vierge, il n'y a pas le culte de la Vierge,
voilà,
etc.
Et il n'y a pas d'image non plus. Et puis, au bout de 2 ou 3 générations, on découvre que certains cherchent l'occasion de repartir vers les pays d'islam, c'est-à-dire l'Empire ottoman ou l'Afrique du Nord. Et ils profitent de l'occasion du passage d'un envoyé d'un pays musulman pour partir sur le même bâtiment, pour repartir en islam avec leur famille. Donc on a des espèces de maranes musulmans.
Rappelez ce que sont les maranes.
Les maranes, ce sont des juifs qui dissimulent leur judaïsme sous les apparences de l'adhésion au catholicisme.
C'est ce qu'évidemment l'Église catholique déteste spécifiquement. Alors maintenant, je voudrais vous faire entendre un reportage qui remonte à 1977 du côté de la grande mosquée essentielle de Paris, un reportage de François Foucard sur le thème « Comment vivent les musulmans en France ?»
بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
Nous ne sommes ni à Nouakchott ni à Damas ou Rabat, mais en plein cœur de Paris, très exactement place du Puy de l'Ermite. Ces sourates ou extraits psalmodiés du Coran sont récités ici chaque jour, et tout particulièrement à la grande prière du vendredi. Le minaret de la grande mosquée domine de vastes édifices et des jardins calmes, des patios fleuris où bruit quelques fontaines. Là, des hommes en djellaba flânent et parfois passe un imam à la barbe grise, coiffé du turban blanc des Hajj, ceux qui ont été à la Mecque. Le vrai coup d'œil, c'est le vendredi. Par centaines, par milliers, parfois, ils arrivent. Pour la plupart, travailleurs immigrés, sénégalais, mauritaniens, algériens, tchadiens, ils ont revêtu la vaste djellaba, se sont chaussés de babouches. Et là, au cœur de Paris, ils viennent prier le Tout-Puissant. Il y a près de 2 millions de travailleurs immigrés en France, parmi eux une majorité de musulmans, et c'est en ce sens que l'on peut dire que la religion musulmane est devenue la seconde de France après le catholicisme. Après la prière, j'ai pu bavarder avec quelques-uns.
Je me suis organisé dans mon travail pour me permettre justement de libérer mon vendredi afin de pouvoir venir tous les vendredis accomplir mon devoir de musulman à la mosquée de Paris. C'est-à-dire que je viens de Saint-Quentin tous les vendredis matin et j'arrive ici, bien entendu, entre deux trains toujours. Aussitôt la prière terminée, je me rends directement aussi à la localité pour me permettre de prendre mes activités. Je suis bien entendu dans l'enseignement.
Mais il n'y a pas que la mosquée, il y a aussi d'autres prières, vous les faites chez vous ?
Oui, c'est-à-dire que nous avons bien entendu les 5 prières rituelles qu'on fait à la maison en arrivant, bien entendu, après avoir fini son travail, on arrive chez soi, donc on fait ses ablutions, enfin, on se met d'abord à l'aise, bien entendu, ensuite on fait ses ablutions et puis on commence ses prières rituelles.
Pour vous, un musulman doit être forcément un pratiquant ?
Absolument, un bon croyant d'abord, bien entendu, il faut qu'il y ait la foi.
Il est curieux d'observer, Lucette Valency, que François Foucard, qui était à l'époque le spécialiste de la religion à France Inter, dit « iman » et non pas « imam ».
Oui, il faut le corriger. Et puis, ce qui a changé depuis cette interview qui remonte à 77,
hein, oui,
c'est que ceux qui fréquentent les mosquées, pas seulement la grande mosquée de Paris, ne sont plus des immigrés, ce sont des Français. Ce sont nos concitoyens. Et ça, c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Ne commettons pas la même erreur que les Espagnols des XVIe et XVIIe siècles.
C'est-à-dire ?
Qui ont considéré les musulmans comme des étrangers et qui ont fini par les chasser alors qu'ils étaient Espagnols et qui parlaient le castillan ou le catalan selon les régions et qu'ils étaient étrangers quand ils arrivaient en Afrique du Nord. Leur patrie, c'était l'Espagne. Les descendants d'immigrés d'aujourd'hui sont français.
Alors maintenant, Lucette Valency, il faut que nous en venions à ce moment tragique qui a été l'épuration ethnique au XVIe et au XVIIe siècle avec l'expulsion des Morisques de la péninsule ibérique. On ne peut pas la comprendre si on n'évoque pas la fin de la Reconquista, la reconquête, pas après 8 siècles, de l'entièreté de la péninsule ibérique par les souverains catholiques. On peut en entendre l'écho dans la fameuse pièce Corneille, le Cid. C'est une pièce qui remonte à 1637 et qui renvoie à des événements antérieurs de plusieurs siècles. L'extrait que je vous donne est emprunté à la représentation du TNP avec Jean Villard comme directeur. C'était le 22 janvier 1955 que cette scène 3 de l'acte 4 était interprétée par Gérard Philippe, le fameux monologue où il raconte la manière dont il a rejeté les morts à la mer.
Sous moi donc, cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un grand renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. J'en cache les deux tiers aussitôt qu'arrivés dans le fond des vaisseaux qui leur furent trouvés. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience, autour de moi demeure, se couche contre terre, et sans faire aucun bruit, passe une bonne part d'une si belle nuit. Par mon commandement, la garde en fait de même, et se tenant cachée, aide à mon stratagème. Et je feins hardiment d'avoir reçu de vous l'ordre qu'on me voit suivre et que je donne à tous. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin, avec le flux, nous fait voir 30 voiles, l'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusqu'au port. On les laisse passer, tout leur paraît tranquille. Point de soldats au port, point au mur de la ville. Notre profond silence abusant leurs esprits, ils n'osent plus douter de nous avoir surpris. Ils abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent, et courent se livrer aux mains qui les attendent. Nous nous levons alors, et tous en même temps, poussons jusqu'au ciel, 1000 cris éclatants. Les nôtres là s'écrient, de nos vaisseaux répondent, ils paraissent armés. Les morts se confondent, l'épouvante les pente à demi descendus. Avant que de combattre, ils s'estiment perdus, ils couraient au pillage et rencontrent la guerre. Nous les pressons sur l'eau, nous les pressons sur terre, et nous faisons courir des ruisseaux de leur sang, avant qu'aucun résiste ou reprenne son rang. Mais bientôt, malgré nous, leur prince les rallie. Leur courage renaît, leur terreur s'oublie. La honte de mourir sans avoir combattu arrête leur désordre et leur rend leur vertu. Contre nous, de pieds fermes, ils tirent leurs alfanges. De notre sang au leur, font d'horribles mélanges. Et la terre, et le fleuve, et leur flotte, et le port sont des champs de carnage où triomphe la mort.
On est là, Lucette Valency, au moment où le Cid est représenté sur la scène, 1637, le Cid de Corneille, à une génération, en réalité, du pire moment de l'épuration ethnique en
oui,
Espagne.
Probablement à la présence aussi, c'est contemporain de la présence de Morisque en France, c'est contemporain de la présence d'un autre Marocain qui s'est converti au christianisme et qui est très proche de Richelieu. Il y a cette familiarité finalement étonnante avec les musulmans et cette familiarité avec ce qui se passe en Espagne, avec cette constante idéologie de la reconquête qui dure bien après la reconquête et cette constante idéologie de l'opposition à l'islam qui dure même après l'expulsion des derniers morisques.
Le Cid qui renvoie à des événements antérieurs de plusieurs siècles. Il fallait évidemment évoquer ces événements pour comprendre ce qui s'est passé ensuite lorsque les souverains catholiques triomphants ont décidé de chasser les morisques. Et il faut évoquer cet épisode qui, à bien des égards, évoque un certain nombre de drames qu'a connu notre XXe siècle.
Il faut réaliser que la chute de Grenade, c'est en 1492, et l'expulsion a lieu plus d'un siècle après. Le royaume de Grenade est le dernier royaume musulman qui soit reconquis par les chrétiens espagnol. La conquête du territoire n'entraîne pas leur conversion. On tolère leur présence pendant quelque temps. Mais en 1505, puis en 1525, on estime que cette tolérance a assez duré et qu'il faut les convertir en masse. Il y a donc une conversion forcée, accélérée, sans aucune formation, de tous les musulmans de la péninsule. Cela veut dire que du jour au lendemain, des musulmans changent de nom et de prénom, abandonnent leurs références au passé, doivent changer de langue et changer de pratique religieuse, bien entendu.
Violence extrême.
Violence extrême. On leur laisse un délai pour s'adapter. Mais en même temps, ce délai peut être utilisé pour pratiquer ce qu'on appelle un crypto-islam, c'est-à-dire de pratiquer l'islam en secret, de se réunir en secret dans la maison d'un riche musulman ici, ou d'un imam, si je puis dire, on les appelle al-faqih, d'un membre de l'élite religieuse là, qui peut continuer à transmettre la tradition.
Tout ce que peut détester l'Inquisition.
Voilà. Et l'Inquisition pourchasse les musulmans, les anciens musulmans, encourage la délation. Et puis, cette persécution constante, cette recherche des élites religieuses ou des élites laïques qui financent les assemblées de musulmans et qui sont traduits devant des tribunaux. Et donc, il y a des villages entiers qui sont harcelés par les officiers de l'Inquisition.
Et pourquoi ce refus du multiculturalisme, alors ?
Ah, parce que l'islam, c'est l'ennemi direct sous la forme des corsaires des États barbaresques en Méditerranée et de l'Empire ottoman, qui est l'empire le plus puissant du côté musulman. Face à l'empire chrétien le plus puissant, c'est l'Espagne, qui possède non seulement la péninsule ibérique, mais une partie de l'Italie. Donc c'est l'affrontement est direct, et on considère les descendants de musulmans comme de potentiels ennemis de l'intérieur.
C'est le temps où Venise s'affronte très directement sur mer avec le Turc, avec l'empereur ottoman, et la bataille de Lépante qui voit le succès de...
La fameuse bataille de Lépante ne mobilise que Venise et les Espagnols, finalement.
1571.
Mais les Français n'y sont pas allés, et les États du Nord, jamais. L'Angleterre n'a jamais été en conflit avec les Turcs, et les autres pays encore moins.
En tout cas, cet affrontement explique, vous le dites, que ce soit durci l'attitude des souverains catholiques.
C'est aussi cette idéologie chrétienne militante de la contre-réforme, il faut bien le dire. L'Église espagnole est beaucoup plus militante que les églises de la chrétienté.
Et c'est cette contrainte qui déclenche la fameuse révolte des Alpuxarras, qu'il faut également évoquer.
C'est le décret royal de 1567 qui provoque en effet une révolte très cruelle, très violente, cruelle des deux côtés, au sud de l'Espagne. Elle est réprimée dans le sang avec des violences insoutenables. Et c'est Don Juan d'Autriche, le vainqueur de Lépante, qui dirige la campagne militaire. C'est toute une armée qui est mobilisée contre ces révoltés. Et après cette révolte, la méfiance est constante. Et même dans les régions où les descendants de musulmans se sont assimilés et sont sincèrement chrétiens, on ne croit pas à leur sincérité. Donc, on aboutit à la décision de les expulser.
L'Inquisition, en attendant, est toute puissante, avec surveillance, délation, torture.
Le Saint-Office de l'Inquisition procède à un véritable quadrillage de la société, entretient des délateurs professionnels, si je puis dire, les familiers de l'Inquisition dans les différentes communautés, envoie régulièrement des officiers recevoir les délations sur place, interroger les suspects, qui sont ensuite emprisonnés, torturés, dépossédés, puis sanctionnés ou rendus à leur collectivité. Mais ça crée un climat non seulement de terreur, mais un climat de suspicion généralisée. Ça contribue à défaire complètement le tissu social de ces communautés qui ont été un temps musulmanes et qui ne le sont plus.
Et ça empêche que désormais on puisse vivre en relativement bonne intelligence entre les communautés.
Voilà. Cela dit, il y a eu des défenseurs de ces convertis. Il y a eu des gens dans la population locale. Il y a eu des seigneurs qui défendaient leurs sujets, leurs paysans. Il y a eu même des membres du clergé qui disaient finalement, ils sont comme nous. Nous ne pouvons pas les maltraiter.
Tout cela n'a pas pu empêcher cette opération de véritable épuration ethnique. Je crois que le mot est anachronique, mais non pas la chose qui... se développe entre 1609 et 1614, qu'il faut qu'on évoque. Et il y a une vraie déportation, effectivement.
Il y a eu une déportation puisqu'ils étaient dispersés dans l'ensemble de la péninsule, moins nombreux au nord, mais très nombreux en Andalousie, en Castille. Ça a été extrêmement organisé, c'est-à-dire que l'armée a encadré leur regroupement sur les places publiques et dans les églises, ce qui éveille aussi de mauvais souvenirs. On rassemblait les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards dans des églises. Puis on les faisait marcher sur des kilomètres, à raison de 20 kilomètres par jour, jusqu'à la côte ou jusqu'à la frontière avec la France, jusqu'aux Pyrénées, la frontière avec le Béarn. Et puis on les expulsait par bateau entier, avec des norias de bâtiments, non seulement de la marine espagnole et de la marine portugaise, mais de tous les États qui dépendaient de l'Espagne, c'est-à-dire des États italiens. Et également d'entrepreneurs privés, tout le monde s'y est mis. C'est-à-dire que pendant des mois, des années, de 1609 à 1614, il y a eu des bâtiments entiers qui, pendant la bonne saison, où on pouvait naviguer, transportaient ces malheureux jusqu'aux côtes de l'Afrique du Nord ou à Marseille, d'où ils partaient vers l'Empire ottoman.
Le nombre d'expulsés du royaume de Valence dépasserait 117 000 personnes sur les quelques 124 000 que comptait la population morisque. Et la différence s'explique, semble-t-il, par la fuite de quelques-uns, le maintien toléré d'un petit nombre et surtout la mort pendant les opérations de transport et l'insurrection.
Sur l'ensemble, on évalue à 275 000 à 300 000 le nombre des expulsés, des déportés et expulsés, car l'expulsion est précédée d'une déportation extrêmement cruelle.
Là, je ne parlais que du royaume de Valence et le chiffre que vous donnez.
Là, je voulais dire de l'ensemble de la péninsule, ils sont moins nombreux au nord, mais plus nombreux en Castille et a fortiori en Andalousie. Mais après la révolte d'Alpujarras, les musulmans d'Andalousie avaient été déportés déjà une première fois vers le nord.
Et écoutez ce récit d'un contemporain qui évoque ces défilés dramatiques de ceux qu'on avait expulsés. Les infortunés morisques s'en allèrent donc au jour que leur avaient fixé les ministres du roi, en procession désordonnée, les piétons mêlés aux cavaliers, marchant mêlés les uns aux autres, brûlant de douleur et de larmes, poussant devant eux grandes clameurs et rumeurs confuses de voix, chargés de leurs femmes et de leurs enfants, de leurs malades, de leurs vieillards et de leurs nouveau-nés, couverts de poussière, suants, haletant comme des chiens, les uns en charrette et serrant sur eux leurs bijoux et leurs pacotilles, les autres en monture, en d'étranges inventions et rustiques postures, logés dans des sièges, des sacoches de sel, des paniers de vannerie, des tonneaux de bas, le tout encombré de besaces, de gargoulettes, de pièces de cuir, de paniers, de linge, de frocs, de chemises, de toiles, de couvertures, de bouts de chanvre et de morceaux de lin et de bien d'autres choses de ce genre, chacun avec tout ce qu'il possédaient. Certains allaient à pied, en guenilles, à peine vêtus, avec aux pieds une espadrille et une chaussure, d'autres avec une cape au cou. Fin de citation.
Oui, j'aimerais revenir sur les chiffres. Le volume des expulsions. La population de l'Espagne est évaluée à 8 millions pour l'époque. Et l'expulsion de 275 000 à 300 000 morisques, c'est 3,4 à 3,7% de la population. C'est plus que les pertes humaines de la guerre civile en Espagne, en proportion. Quand même extraordinaire. Ce serait l'équivalent de l'expulsion de plus d'un million de personnes aujourd'hui. Imaginez qu'on expulse 1 350 000 Espagnols aujourd'hui et qu'on les déverse sur les côtes du Maghreb ou à Marseille, d'où ils vont regagner l'Empire ottoman. C'est colossal.
C'est le nombre des Européens, comme on disait, d'Algérie, qui ont, en 1962, rejoint la France. Oui, la métropole,
vrai.
Je veux dire.
C'est vrai, oui. Mais cela par les Français, tout de même. Tandis que les Morisques parlaient le castillan ou le catalan, et ils arrivaient au Maroc, au Maghreb, dans l'Empire ottoman, où l'on parlait arabe.
Donc très mal accueillis, en général.
Et on les considérait comme des chrétiens, comme des apostats, où on les dépouillait. Et donc, ils n'étaient pas bien reçus. Ils ont démontré la sincérité de leur adhésion à l'islam en devenant encore plus royalistes que le roi, si je puis dire, et plus musulmans que les musulmans locaux. Ils ont écrit des traités polémiques contre le christianisme, etc., pour manifester leur adhésion sincère à l'islam. Certains sont du reste revenus en Espagne et ont préféré redevenir chrétiens et disparaître dans la société chrétienne. Certains se sont entêtés, qui étaient passés au Béarn et qui sont revenus à pied, de nuit, avec leurs enfants et leurs vieillards, jusque dans leur ville qui se trouvait au centre de l'Espagne. Des générations plus tard, ils ont réussi à plaider leur cause et au prix de très longs procès, ils ont récupéré leurs terres et ils ont pu se réinstaller dans leur village d'origine par centaines. Il y a donc eu des survivances de l'islam, y compris de pratiquants musulmans, jusqu'au XVIIIe siècle.
Je voudrais maintenant, Lucette Valency, pour terminer notre conversation, cette émission consacrée aux musulmans en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, en arriver précisément à la fin de notre période, avec une évolution patente du rapport de l'Europe par rapport aux musulmans. Une certaine sécularisation, une moindre importance de l'opposition religieuse, et en même temps, le musulman devient, on peut le dire, quelque chose comme un objet de curiosité.
Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. On décrit, déjà en amont, hein, depuis le XVIe siècle, lorsqu'on décrit des hauts personnages qui ont cherché refuge en chrétienté, ou bien des envoyés, très souvent, c'est la métaphore zoologique qui vient sous la plume. Et c'est assez choquant. On décrit un prince qui ressemble à un singe, alors que les portraits qu'on a de lui montrent un homme tout à fait respectable. Un autre envoyé, de nouveau, décrit comme un singe. On décrit leur voix comme une voix de chèvre. Tel autre a une démarche d'éléphant. Bref, comme des animaux de jardin zoologique.
Oui, le singe, c'est le baron de Breteuil.
Qui dit cela.
Oui. Où il dit aussi que la nature lui a donné un ton de voix de taureau à propos de Mehmet Riza Beg qui a été envoyé du Shah de Perse en 1714. Et on se demande comment Breteuil a pu connaître le ton de voix d'un taureau, mais enfin ça lui est propre.
Oui, en effet. Oui, la voix de chèvre aurait été plus appropriée peut-être. Mais en même temps, je ne voudrais pas caricaturer, en même temps, vous avez à l'égard des mêmes personnages une sorte de fascination qui fait que tel prince, dans ce qui est maintenant la Belgique, mais qui n'était pas la Belgique à l'époque, qui appartenait à l'Espagne.
La Belgique date de 1830, rappelons-le.
Oui, voilà, il faut le rappeler. Ou bien tel fils du pape, car le pape avait un fils au XVIe siècle, se déguise en turc. Ils adoptent le costume de leur hôte, de ce réfugié politique qu'ils ont accueilli. Donc, il y a une véritable fascination quand même pour la splendeur des costumes,
au fond,
les armures.
Ça renvoie assez directement au texte illustrissime de Molière, au théâtre de Molière avec le bourgeois gentilhomme.
Qui fait suite à l'arrivée réelle d'un ambassadeur qui a été tellement populaire, tellement couru partout, je dirais fréquenté par les hommes et les femmes de Paris, qui voulaient absolument être auprès de lui, partager son repas, l'observer dans tous ses gestes, le laisser seul. Seulement lorsqu'il prenait ses bains, il a eu un tel succès populaire que le roi a demandé que l'on compose une pièce de théâtre.
Eh bien, en fait, en l'occurrence, c'est plutôt l'Européen qui est ridicule au dépens du Turc, on peut dire comme ça. Écoutez cet extrait du bourgeois gentilhomme. C'est un enregistrement de 1962 avec Henri Salvador qui joue le rôle de Corviel et Jacques Fabry, celui du bourgeois de Monsieur Jourdain.
J'ai voyagé partout le monde.
Partout le monde?
Oui.
Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là.
Assurément. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours. Et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde.
Quelle?
Vous savez que le fils du grand Turc est ici?
Moi, non.
Comment? Il a un train tout à fait magnifique. Tout le monde le va voir et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance.
Par ma foi, je ne savais pas cela.
Ce qu'il y a d'avantage pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille.
Le fils du grand Turc?
Oui, et il veut être votre gendre.
Mon gendre, le fils du grand Turc?
Le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fais voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi. Et après quelques autres discours, il me dit... Acham krok soler us ala mustaf ginelum amanahem varahini user karbulat. C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien?
Le fils du grand Turc dit cela de moi?
Oui, comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille. Oh! Me dit-il. Marababa sahem. C'est-à-dire. Ah, que je suis amoureux d'elle.
Marababa Sahem veut dire « Ah, que je suis amoureux d'elle ».
Oui.
Eh bien, par ma foi, vous faites bien de me le dire, car pour moi, je n'aurais jamais cru que Marababa Sahem eût voulu dire « Ah, que je suis amoureux d'elle ». Voilà une langue admirable que ce turc.
Plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire « Kakarakamouchen » ?
Kakarakamouchen, non.
C'est-à-dire « ma chère âme ».
Kakarakamouchem veut dire ma chère âme?
Oui.
Mais voilà qui est merveilleux. Kakarakamouchem, ma chère âme. Dirait-on jamais cela? Voilà qui me confond.
Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage.
Oh.
Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouché, qui est une certaine grande dignité de son pays.
C'est bien le bourgeois qui est ridicule, ce n'est pas le turc imaginaire.
Tout à fait, oui. Les autres ambassades ont suscité des œuvres littéraires assez drôles et illustrées toujours de personnages orientaux. Il est toujours question d'intrigues amoureuses entre l'ambassadeur et des jeunes femmes françaises, ce qui a eu lieu quelquefois en effet, mais ces œuvres littéraires sont tombées dans l'oubli.
Allons de l'avant en évoquant par exemple tel personnage que vous avez exhumé et lui, c'est en Grande-Bretagne qu'on l'observe et qu'il voyage.
Ah oui, et là, on décèle une évolution. C'est en cela que c'était intéressant. Il y a le cas de Mirza Taleb Khan, qui est un haut personnage de ce qui est maintenant le Bangladesh, donc de l'Inde, n'est-ce pas, musulman, et qui reste musulman tout au long, qui vient en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et publie une relation de son voyage tout début du XIXe siècle. Il est reçu très généreusement, avec beaucoup de courtoisie par tous les Anglais et de toutes les couches. Il est invité à des parties de campagne, à des grandes réceptions, à des concerts, à des spectacles. Il visite des églises, etc. Lui-même est extrêmement ouvert à la civilisation anglaise et en même temps, il défend l'islam. Et il a même un texte annexé à sa relation de voyage dans laquelle il explique pourquoi il a eu à défendre l'islam et en particulier, ce qui est intéressant pour aujourd'hui, la position des femmes en islam.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le fait qu'elles sont protégées par les hommes, qu'on ne les voit pas en public, mais qu'en même temps, elles jouissent d'une grande sécurité et elles ont des droits et pas seulement des obligations. C'est un discours qui répond vraiment à l'esprit des Lumières, en même temps qu'il défend sa foi.
Il pense que les Anglaises sont moins bien traitées en réalité ?
Ah non, il est absolument séduit par les Anglaises. Il a même, lui, réellement des intrigues amoureuses avec certaines Anglaises.
N'entrons pas dans ces détails intimes.
Il a laissé femme et enfant au Bengale, mais il a quand même eu des relations avec des jeunes femmes anglaises. Et il faisait même un détour lorsqu'il sortait l'après-midi par une pâtisserie anglaise parce que les serveuses étaient si jolies qu'il ne pouvait pas se priver d'aller les visiter. Et sa relation de voyage est extrêmement intéressante parce qu'on voit que l'attitude a changé. L'Angleterre commence à devenir une grande puissance. Ce n'est pas seulement la Compagnie des Indes qui exerce son pouvoir en Inde, ça commence à être une puissance impériale. Et lui choisit le parti de l'Empire.
Dites-moi quelque chose sur l'attitude des encyclopédistes en France, parce qu'on se rappelle toujours la pièce de Voltaire, Mahomet, oui. Qui, si elle était représentée aujourd'hui sur les ondes, créerait beaucoup d'émotions et des émeutes, oui.
Il provoquerait des émeutes, mais il est anticlérical aussi, et il est anti-juif aussi, si je puis dire. Et donc, ça fait partie de tout un univers voltairien. Tout de même, l'idée de tolérance appartient aux Lumières. En même temps, l'idée d'égalité s'impose avec la Révolution française. L'idée d'égalité, l'idée de fraternité.
Oui, donc, en somme, ce que déteste, ce que fustige Voltaire, ce n'est pas l'islam en tant que tel, mais c'est le risque de cléricalisme,
oui,
qu'il trouverait ailleurs aussi.
Oui. Mais au début du XIXe siècle, le grand changement, c'est que l'égalité et la tolérance, c'est bon entre soi, mais s'impose l'idée qu'il y a des races, et des races hiérarchisées. Donc d'un côté, on dit les individus sont égaux, mais de l'autre, on dit qu'on appartient à des races biologiquement différentes.
Jules Ferry est d'ailleurs l'élève de Condorcet, au fond.
Et voilà. Et donc, ce que l'on avait gagné du côté de l'égalité, on le perd avec l'idéologie raciste, qui n'est pas le fait de raciste, qui est aussi une idéologie des savants. Des savants qui étudient les différentes modalités de l'être humain.
Mais est-ce qu'on peut dire, Lucette Valency, que c'est de ce moment-là, le temps de l'encyclopédie, que date le début de dissociation entre deux sociétés qui, jusque-là, étaient largement marquées par une certaine idée du sacré. Ce sacré recule en Occident commence de reculer. Il y aura des retours, par exemple, au moment de la Restauration. Il y aura les lois sur le blasphème, sur le sacrilège. Mais enfin, le mouvement, oui, général et la désacralisation de la société, alors que ce n'est pas le cas du côté islamique, d'où finalement les oppositions violente d'aujourd'hui à propos de cet épisode du film absurde que nous avons vu et des caricatures de Charlie Hebdo.
Depuis le 19e siècle, il y a un rapport de domination qui s'est instauré entre puissance occidentale et pays d'islam. Et c'est de ce passé que nous sommes les héritiers. Et les musulmans ont été conquis, ont été soumis, ont parfois été humiliés. Ils ont aussi accédé à la modernité, ce qui n'est pas rien, mais une modernité imposée de l'extérieur et qu'ils récusent donc, qu'ils continuent de récuser, que certains continuent de récuser.
Ce n'est pas seulement une domination, c'est aussi du même coup une différence de relation avec la religion, une conception différente des liens entre la religion d'un côté et la vie sociale et politique de l'autre.
Tout à fait, oui, nous sommes dans des sociétés plus laïcisées, c'est clair. Tandis qu'en islam, les milieux qui ont encouragé une laïcisation de leur société, je pense à Bourguiba, mais pas seulement, à d'autres leaders, sont restés minoritaires. Et actuellement, on a une recrudescence, évidemment, générale de la défense d'un retour à un islam d'ailleurs mythique, qui abolit l'histoire séculaire de la civilisation islamique pour revenir à une sorte d'utopie de l'islam primitif.
Eh bien, ce sera votre dernier mot, Lucette Valency. Espérons que ce message soit entendu dans différents pays, par exemple dans votre chère Tunisie, où vous avez longtemps vécu.
Tout à fait.
Votre livre s'appelle « Ces étrangers familiers, musulmans en Europe, du XVIe au XVIIIe siècle ». Il vient de paraître chez Payot. Je voudrais également signaler un livre qui est d'actualité, qui s'appelle « L'islam en dissidence, genèse d'un affrontement ». Avec Gabriel Martinez-Gros, vous l'avez publié au Seuil en 2004. Quelle était votre intention en rédigeant ce livre?
Et c'était de répondre à une préoccupation des Français et de l'éditeur en particulier. Pourquoi en islam y a-t-il tant de musulmans qui nous haïssent? Où doit-on remonter pour expliquer ce ressentiment? Et donc nous avons fait une sorte de rétrospective qui conduisait à cette haine de l'Occident.
Vous remontez jusqu'aux croisades, dont Martinez-Gros est un grand spécialiste.
Oui, il indique les racines les plus anciennes, et moi j'avais à traiter de la partie plus récente, de la situation coloniale, mais de la situation post-coloniale, où le nationalisme a encouragé l'hostilité à l'Occident, et puis de la situation plus, tout à fait récente, où l'islamisme politique encourage la haine de l'Occident.
Hommage soit rendu aussi au livre très important qui a été publié sous la direction de Jocelyne Daclia et Bernard Vincent, les musulmans dans l'histoire de l'Europe. Il s'agit du tome 1 qui s'appelle « Une intégration invisible » chez Albin Michel dans la bibliothèque Histoire. Vous pourrez retrouver naturellement, vous le savez, une bibliographie plus complète sur notre site et aussi les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez écouter, réécouter pendant 1000 jours cette émission et la podcaster pendant un an. Samedi prochain, nous parlerons du vert, de la couleur verte, avec les langages de cette couleur, qui n'est pas sans quelque actualité, notamment dans le domaine politique. Et je recevrai pour cela Michel Pastoureau. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, réalisée par Patrick Molinier. C'était Virginie Cassane qui a assuré la prise de son. Karine David était à la discothèque et Catherine Louis nous a aidés pour les archives INA. Dans quelques instants, comme chaque samedi, vous retrouvez Dominique Rousset pour l'économie en question.